C'était Diane Dufresne pour faire le passage du Conseil fédéral suisse où nous marquons aujourd'hui l'arrivée d'une première femme de gauche. Précisons bien, il y en a déjà eu une autre, mais on ne s'y reconnaissait pas beaucoup. Et le passage à notre émission aujourd'hui en compagnie de nos amis de la librairie des femmes L'Inédite à Genève, Annette Zimmermann et Evelyne Merlac. Alors aujourd'hui, Annette et Evelyne, vous nous proposez non seulement un livre, mais un thème de débat qui promet de faire couler de l'encre et des paroles pendant plusieurs heures, si on en avait des heures devant nous. On ne va pas y consacrer des heures, on n'y consacrera qu'une heure, puisque notre émission s'achève à 18h30. Mais je crois qu'on aura déjà beaucoup de choses à dire. Le thème que vous nous proposez, c'est « Les femmes et l'argent », parce que c'est un livre que vous avez trouvé sur ce thème. Alors, il a pour titre, enfin, je vois sur la première page, « Essai », écrit par Marie-Françoise Hans. Pourquoi « Essai » ?
Oui, parce qu'il s'agit d'une réflexion sur ce sujet. Comme disait Annette, c'est pas un roman. Donc, ça serait qu'un roman noir, si c'en était un.
Ah, pas tout à fait.
Et tu dis, bon, peut-être que ça il va nous faire parler, oui, pendant une heure, mais il a fait peu écrire ce sujet-là. En effet, une des premières choses dont on se rend compte en commençant l'ouvrage, c'est qu'il existe très, très peu de personnes qui se soient lancées sur ce sujet. On ne cite qu'un autre essai paru en 1976 aux États-Unis, qui s'appelait « Women, Money and Power ». Sur le sujet, et il était écrit par deux féministes. Donc en plus, c'était le sujet des femmes, de l'argent et du pouvoir, vu à travers la lorgnette féministe. En 87, plus près de nous, il y a eu un colloque à Vienne, sous la direction d'une banque, d'ailleurs, je crois que c'était. Et il y a une sociologue viennoise qui a fait remarquer qu'il existait pratiquement aucun ouvrage théorique et peu d'ouvrages littéraires sur le sujet. Bien que notre auteur ait trouvé beaucoup d'exemples dans la littérature de personnages féminins qui se débattent bien ou mal avec l'argent. Donc il y a très peu d'ouvrages sur ce sujet. C'est comme si on n'avait jamais osé vraiment mettre ensemble ces deux concepts, les femmes et l'argent. Comme si c'était un couple trop difficile à travailler. En tout cas, le fait est qu'il existe en français seulement cet ouvrage-là qui paraît maintenant d'ailleurs en livre de poche.
Alors, qu'est-ce qui, à vous toutes les deux, vous a intéressé dans l'idée de lire ce livre ? Parce que tu le dis, rien n'a été écrit, mais il faut reconnaître que c'est très certainement un sujet un peu ardu, comme tout ce qui tourne autour de l'argent, d'ailleurs. Hein. On n'a pas toujours envie d'en discuter, mais des fois, on se dit, mon Dieu, c'est déjà tellement présent dans la vie que nous menons tous les jours. Encore décortiquer cette question. Vous, qu'est-ce qui vous a intéressé pour avoir envie de nous le proposer aujourd'hui ?
Bon, moi, je pense qu'effectivement, c'est très important pour les femmes d'être indépendantes. C'est bon, mon engagement personnel dans la cause des femmes, il est essentiellement lié à ce besoin-là, c'est l'indépendance personnelle. Et je pense que il est impossible d'ailleurs d'avoir des relations réelles d'égal à égal si on n'a pas cette indépendance financière. Je crois que effectivement c'est indispensable pour toutes les femmes, les filles, de choisir un métier, de s'engager dans la vie professionnelle, de gagner de l'argent pour être indépendante. Et raison pour laquelle, effectivement, je trouvais intéressant de trouver un livre qui traite de ce problème. Et je crois que c'est aussi d'ailleurs intéressant d'une manière générale d'avoir quelques idées sur l'histoire de cette relation entre femmes et argent, parce que, en somme, on a, comme Evelyne le disait, il y a peu d'essais analytiques importants là-dessus. Et Marie-Françoise Hans, qui est donc une femme historienne et une femme de lettres qui connaît très très bien la littérature et l'histoire, nous fait une démonstration assez intéressante de qu'est-ce qui s'est passé avant et quel est le poids tellement fort des traditions et de la manière dont on élevait les filles et de la façon dont le pouvoir a voulu gérer l'argent. Et le pouvoir, c'était d'abord les hommes.
Mais comme tu le disais tout à l'heure, si pour le combat vers l'égalité entre hommes et femmes, l'argent est pour toi et je crois considéré par toutes les femmes comme étant une chose importante pour obtenir son indépendance, il est vrai que si on constate dans tous les domaines, l'argent est toujours le nerf de la guerre. Dès le moment où on veut réaliser quelque chose, se pose toujours le problème d'avoir les moyens de le faire et l'argent est souvent une des choses indispensables. Et pour les femmes, effectivement, il semblerait que la lutte pour l'égalité a passé par l'indépendance économique. Il faut avoir les moyens de son indépendance. Alors je pense que tout ça, vous l'avez retrouvé dans une partie historique d'abord. Comment est construit le livre justement ? Est-ce que c'est une lutte une analyse qui part depuis la nuit des temps, l'apparition de la monnaie, la suppression du troc, le rôle des femmes ? Enfin, comment est construit le livre ?
D'abord une chose, le livre est très amusant. C'est pas parce que le sujet est ardu que la lecture est ardue. Le livre est assez long, ça quand on doit le lire vite, il est un peu long, mais il est très amusant parce que l'auteur fait des clins d'œil du début à la fin. Et puis elle donne en plus beaucoup, beaucoup d'exemples, bien sûr tirés souvent de la littérature, mais beaucoup d'exemples qui allègent, elle veut faire et refaire la démonstration de ce qu'elle dit. Dans ce sens-là, il y a peut-être trois quarts d'exemples et puis un quart de déclarations, disons, théoriques, d'analyse proprement dite. Donc, il ne faudrait surtout pas avoir peur de l'ouvrir en pensant qu'on ne le comprendra pas, parce qu'il est...
Ce sera un traité d'économie.
Absolument
non,
pas.
Au contraire, il est truffé d'exemples qui sont souvent, effectivement, très, très amusants.
Non, et en plus, il est très amusant.
Elle a un style extrêmement alerte, extrêmement facile.
Narquois, des
oui,
fois, aussi.
Oui, presque. Parfois, je trouvais, moi, un petit peu trop branchée, dans le sens qu'elle s'adresse parfois... On a l'impression qu'elle s'adresse vraiment à ses copines. Alors, il y a un côté sympathique, parfois il y a un côté un petit peu agaçant. Mais en tout cas, la lecture, elle est facile, ça c'est sûr.
Alors, effectivement, elle est historienne, alors elle a quand même voulu refaire un bref survol historique de la longue exclusion des femmes des biens, de la possession des biens et de la longue marche qu'a signifié la conquête de la possession de ces biens. Comme tu l'as dit, les biens, c'est le nerf de la guerre, donc il faut les posséder, il faut qu'on les possède tous. C'est pas juste qu'il y ait seulement la moitié de l'humanité qui puisse en disposer. Alors c'est une longue histoire parce qu'effectivement... Elle l'a fait remonter dans notre antiquité, disons, de nouveau société occidentale. Moi, je peux en donner deux mots ici, mais évidemment, en deux mots, ce sera des raccourcis simplistes. Mais on peut donner quelques images comme ça pour rappeler que dans la plus haute antiquité en Égypte, on trouve une situation relativement favorable pour les femmes. Les femmes, en effet, en général, sont maîtresses de leur maison et de leurs enfants. Et bon, on sait qu'elles avaient accès au pouvoir suprême aussi, puisqu'elles épousaient les sœurs épousaient les frères pour devenir pharaon et pharaonne. Mais cette situation change vers le 3e siècle de notre ère, où à la suite de nombreux projets de philosophes de l'époque, on finit par interdire toutes ces choses aux femmes, toutes ces possessions aux femmes égyptiennes. À Athènes, la situation, alors, elle est très bloquée. Les femmes n'ont vraiment aucun droit. Elles sont tout à fait sous la tutelle de leur mari ou de leur père ou de leur fils si leur époux décède. Elles n'ont pas accès à des biens propres. Et alors, apparemment, elles deviennent les reines de la débrouillardise dans l'espace qui leur est réservé, c'est-à-dire le gynécée. À l'intérieur du gynécée, elles sont toutes puissantes, mais c'est pas de là qu'on fait la... Et puis, évidemment, on fait beaucoup de choses dans la cité grecque. À Rome, c'est un petit peu la même situation, un peu moins... peut-être un petit peu moins absolue, et on a là aussi ces matrones fameuses de l'époque qui ont un gouvernement privé de la maison, disons. Chez les Celtes, la situation est un petit peu différente. Il semble que les Irlandaises étaient rien à voir avec l'Irlande d'aujourd'hui. Les Irlandaises étaient assez libres. Elles avaient la jouissance de leurs biens. Et même si elles étaient mieux nées et avaient plus de biens que leur mari, elles devenaient chefs de famille. Mais ça, c'était bien avant l'arrivée du christianisme.
Ouh là là, oui.
Et du catholicisme en particulier. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Si on veut donner... La Gauloise était moins favorisée que l'Irlandaise. Mais toutes ces femmes, avec l'arrivée du christianisme, vont se retrouver sous un couvercle. Ça, il n'y a pas de doute. Le Moyen-Âge, c'est difficile de donner une seule image parce que le droit féodal était tellement compliqué. Et puis, il y a tellement de mélange entre le droit privé et le droit public que quelquefois, dans certaines époques, ou dans certaines régions, ou dans certaines situations, les femmes sont favorisées, et d'autres fois, elles sont plutôt, de nouveau, exclues des droits sur les biens.
Mais je crois peut-être que, excuse-moi de t'interrompre, oui. Evelyne, mais c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, à propos de femmes et argent, en tout cas moi, quand vous m'avez proposé ce thème, il y a tout de suite une série d'images, effectivement, qui nous passent par la tête, comme tu le disais tout à l'heure. Des images qui, d'ailleurs, ne respectent pas beaucoup la chronologie, puisque tu t'étais lancée dans une analyse chronologique. On passe des fois d'images qui concernent des choses qui existent toujours aujourd'hui, comme elles existaient, comme tu viens de le dire, déjà depuis l'Antiquité, c'est-à-dire la façon dont la femme gère de l'argent, mais seulement au sein de la famille. Est-ce que vraiment les choses ont changé depuis les femmes de la Grèce et de la Rome antique? Aujourd'hui, tant que ça, on sait bien ça a changé, mais enfin, bon. Il y a l'éternelle question qui est aussi hors, je crois, histoire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, qui est cette différence. Quand les femmes travaillent quand même, gagnent quand même de l'argent, elles sont toujours prétéritées face aux hommes. Elle gagne moins, même si les choses ont changé, on le sait. C'est encore un grave problème aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu... Et puis, il y a ces images de femmes qui sont un petit peu en dehors de tout critère, qui ont beaucoup d'argent et qu'on admire, et on se demande d'où elles tiennent leur argent. Est-ce que c'est un homme qui les entretient? Est-ce que c'est leur famille qui est riche? Est-ce qu'elles sont stars et ont gagné de l'argent par une aura publique? Est-ce qu'elles sont entretenues? Enfin, bref. Et puis, les différences de classe sociale, toutes ces images, les femmes riches, les femmes pauvres, comment gèrent-elles, comment agissent-elles avec l'argent dans leurs mains? Et cette histoire que tu disais aussi, toi, Annette, plus proche de nous, eh bien, on sait bien, la lutte pour l'égalité et pour l'indépendance a passé par la conquête de l'argent pour pouvoir prendre soi-même un certain nombre de décisions et être autonome. Alors, parmi toutes ces images données en vrac, il y en aurait peut-être encore beaucoup d'autres. Finalement, comment dans le livre, parce que si je crois, j'ai un peu peur, Evelyne, que si tu commences à rentrer dans chaque petite étape comme ça, on s'en sortira pas dans le petit temps qui nous est dévolu. Alors, est-ce que il n'y a pas des parties que tu as privilégiées? Bon, si j'ai bien compris, le livre est surtout partagé en deux grands espaces qui revient un peu à ce que vous avez déjà dit. D'une part, l'argent que la femme n'a pas gagné elle-même, mais qu'elle doit gérer dans un certain nombre de circonstances très restreintes. Et puis, plus tard, l'argent qu'elle aura gagné, elle. Alors, vous vous êtes un peu séparés le travail, oui, toutes les deux.
Moi, j'ai plutôt l'argent prison, l'argent problème, l'argent dépendance. Et ce que tu disais, il y a deux images qui reviennent et qu'elle cite beaucoup sur les femmes, c'est la cigale et la fourmi. Alors, ça aussi, probablement des débuts de l'histoire qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ces deux pôles. D'un côté, on n'est pas étonné de voir une femme ou de dire d'une femme qu'elle est dépensière, qu'elle est panier percé, qu'elle est frivole, qu'elle ruine les hommes, etc. Non ? C'est la cigale. Et puis d'un autre côté, on a toujours aussi cette image de la mère économe qui sacrifie pour ses enfants, qui la paysanne qui avait son bas de laine, l'ouvrière qui, ayant une nouvelle grossesse, n'hésitait pas à se priver de nourriture pour alimenter le dernier bébé, et puis qui compte les sous de l'ouvrier, qui lui prend sa paye le vendredi soir quand il revient, puis lui redonne un petit peu pour son verre au bistrot et son tabac. Alors, c'est très difficile. Et quand je regardais la partie, par exemple, consacrée à l'éducation des filles, et qu'est-ce qu'on leur dit? Alors, est-ce qu'on leur dit d'être des cigales ou des fourmis? Alors, justement, tout est toujours ambigu, encore aujourd'hui. On leur dit à la fois d'être les deux. Alors on leur dit de mépriser l'argent parce que alors l'argent quand même c'est un peu sale, et là il y a des influences religieuses qui interviennent aussi pour dire que au fond c'est souvent il provoquera la perte d'un individu, hein. Et il y a qu'à voir l'aura un petit peu honteuse qu'ont les casinos, les endroits où on ne joue qu'avec de l'argent. Puis en même temps, donc, de mépriser l'argent, mais en même temps le respecter parce que, évidemment, sans argent, on ne fait rien. On leur dit de le garder, mais aussi de le donner. Il faut qu'elle soit généreuse, mais en même temps, il faut pas qu'elle mette en péril la situation de la famille. Donc c'est une des règles morales qu'on leur donne qui sont très ambiguës. Quand on les leur donne, il y a aussi des moments ou des familles dans lesquelles on ne parle pas de ça, comme on dit. Il y a un grand silence autour de ce qu'est l'argent et comment on doit quelle relation on doit avoir par rapport à l'argent. Donc c'est pas facile pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les petites filles, pour les jeunes filles, pour les femmes plus tard, de savoir quoi faire. Il pèse sur elles toutes ces influences. Je disais, les influences religieuses aussi sont contradictoires. L'influence catholique est plutôt aussi axée sur l'argent comme un mal. Les protestants valorisent plutôt l'argent. Si on travaille bien, on gagne bien et puis on plaît à Dieu. Les juifs ont il semble que les mères juives transmettent une grande angoisse, insécurité à leurs filles en leur disant il vaut mieux avoir de l'argent pour on ne sait jamais dans la vie ou s'il n'y aura pas une persécution, donc il faut se préparer comme ça. Enfin, etc. Il y a beaucoup d'influences. Il y a des influences politiques aussi différentes. Si on est dans une famille d'ouvriers dont le père est un leader syndicaliste, ben peut-être qu'on a des exemples dans les livres d'ailleurs. On dira aux filles, l'argent, de nouveau, l'argent, c'est quelque chose qui corrompt. Hein. Et puis si on est dans une famille de grands financiers, on leur dira certainement pas la même chose.
C'est l'honneur de la famille. Hein.
Alors, c'est pas facile de s'en sortir avec toutes ces influences contradictoires. Et puis plus tard... on sait aussi que les femmes auront affaire dans leur vie de femmes avec les ambiguïtés de l'argent et du sexe. Alors là aussi, c'est pas facile parce que c'est pas très clair non plus. Bien qu'on sache qu'il y a une relation entre argent et libido, et il y a qu'à penser à toutes ces histoires de vieux monsieur impuissant qui couvre sa maîtresse d'or pour la garder, parce que comme il ne peut pas la garder par d'autres manières, il la garde. C'est que c'est connu. Là aussi, c'est une figure classique de la littérature. Dans le théâtre du 19e et du 20e siècle, l'argent qui divise le couple, c'est le meilleur sujet après l'adultère. Et j'entends, c'est vraiment... Il y a des relations importantes entre... ces deux choses, mais là aussi elles sont très troubles. Les femmes, peut-être que mon amie là veut rajouter quelque chose.
Moi j'aimerais bien lire un petit passage pour vous donner le goût du style de Marie-Françoise Hans. Femme dépensière, panier percé, gare à toi. La malédiction te guette, coquette prodigue de toute éternité. Jéhovah, par la voix du prophète, tonne contre le luxe féminin. Isaïe condamne sans appel les frivoles filles de Sion. Dans leur sagesse, les pères de l'Église firent porter le poids du péché d'argent aux femelles. Plus tard, Calvin, Picard sévère aux rives du Léman, gronde et renchérit. Cette intempérance a été le tout temps que les femmes ont eu cet appétit si brûlant qu'il a fallu qu'avec des châtiments et punitions on y pourvût, et sans cela on n'en pouvait venir à bout. En quoi nous voyons que cette cupidité qui est aux femmes de se parer est comme une bête enragée. Voile-toi la face aux femmes de bien. À Genève, entre 1558 et 1591, Des ordonnances somptuaires pleuvaient. De plus en plus strictes et détaillées, elles allaient jusqu'à réglementer les dorures, les rubans, les fils de soie. Rien n'y fit. Alors on poursuivit les coupables. En 1551, comparaissait devant le consistoire genevois une certaine et véridique Françoise de Feignan, accusée de s'être pavanée de par les rues de la ville, accoutrée à la française, à l'espagnole, à la portugaise. Elle se défendit comme une diablesse et argua qu'elle se vêtait en femme de bien et au plaisir de son mari. Eh oui, pour apaiser la colère des juges, elle dut se réfugier derrière le seul argument plaidable, le désir constant et légitime de plaire à son époux.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8 et nous discutons argent autour des femmes à propos d'un livre écrit par Marie-Françoise Hans et présenté par nos amis de la librairie L'Inédite des librairies des femmes, Annette et Evelyne. Alors Evelyne, tu le disais tout à l'heure, il y a parfois certaines images contradictoires autour de l'argent. Il y en a une auquel tout le monde, autour de laquelle tout le monde est mal à l'aise, je crois, en tout cas si on parle des femmes, c'est l'idée que certaines femmes ont gagné de l'argent de façon pas très honnête. Et cette crainte d'avoir gagné de l'argent de façon pas très honnête. Hein, par...
Oui, alors, ce qu'il y a de semble-t-il, qui met beaucoup de femmes mal à l'aise, c'est le sentiment d'être entretenu ou de se vendre. Il semble qu'il y a derrière les cadeaux, derrière le fait de recevoir de nouveau de l'argent non gagné, il y a toujours la hantise de se vendre comme se vend une prostituée, la hantise de la prostitution. Donc chez les femmes qui ne sont pas des prostituées. Et il y a un petit chapitre d'ailleurs qui s'appelle « Les cadeaux empoisonnés » parce que on aime recevoir le cadeau, il vous valorise d'une certaine manière, et s'il est cher, la femme en est d'autant plus valorisée dans certains cas, croit-elle, et en même temps, elle se sent mal à l'aise face à lui, parce qu'il est, il sera la preuve pour elle, peut-être pour d'autres, que justement, elle s'est un peu vendue, elle n'est pas maîtresse de sa vie, de son corps, de ses décisions, etc. Donc il y a là aussi il y a une attitude difficile, des sentiments contradictoires par rapport à cette question du cadeau. Et même si certaines femmes souhaitent le recevoir, en même temps elles le rejettent. Et voilà, on pourrait dire, donner beaucoup d'autres exemples de ces contradictions qui apparaissent sans arrêt quand on pense à l'argent. Évidemment, pas seulement par rapport aux femmes, mais puisqu'ici c'est notre sujet, on parle des femmes. Je pense que les hommes ont quelques problèmes aussi par rapport à l'argent.
Je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors, peut-être tout de suite, on peut écouter Juliette Gréco qui évoque cette femme qui a un vieux grigou dans son lit qui croit qu'en la payant, il la domine. Mais pourtant, elle dit, c'est elle la propriétaire.
Ça ne s'est pas fait par hasard, il m'a aimé pour mes dollars. La petite frappe, Il croyait qu'il serait peinard, mais puisque je l'ai dans mon plumard, je me le tape. Il a fait la cour à papa, sans un regard pour mes appâts. La peau de vache, tu m'as voulu, maintenant tu m'as. Il va falloir marcher ou pas, sinon je me fâche. Moi, la moralité, je suis pour. Tu paies content ou bien tu cours. T'entends, canaille? Je suis de ton avis, mon bel amour. Ce ne sera pas marrant tous les jours. Alors, tu tailles? Parce que si tu n'es pas d'accord pour t'occuper de mon petit corps, t'entends, bonhomme? Je te renvoie franco de porc à la débine d'où tu sors. Il me faut un homme. Qu'il soit tout neuf ou d'occasion, qu'il soit hébreu, grec, noir, breton ou britannique, faut qu'il ait bonne présentation et qu'il me donne toute satisfaction sur le plan physique. Tu veux garder ton gagne-pain, retrousse tes manches, crache dans tes mains, vas-y. Soupir. Pas du bâclé, du cousu-main, ce soir, demain, après-demain, faudra me séduire. Mais où tu vas, mon joli cœur, ma fille de joie, mon exploiteur, ma figurante? Tu retournes vivre chez ta sœur. Fais pas l'idiot, parle pas de malheur. Puisque je t'augmente.
C'était Juliette Gréco, la propriétaire. Alors, il est des femmes qui, comme... l'héroïne de la chanson de Juliette Gréco, à un moment donné, on sentit qu'elle pouvait déjà avoir un certain pouvoir avec l'argent, avant même d'en arriver à la situation que tu évoquais tout à l'heure, Annette, des femmes qui ont compris que l'argent leur permettrait de devenir indépendantes et se libérer, qui en ont usé depuis la nuit des temps, hein, qui ont vu que l'argent leur permettrait d'accéder à une position en vue, mais qui ont été des femmes exceptionnelles dans le sens de sortant de l'ordinaire, de la vie commune et ayant vu que grâce à l'argent, elles pouvaient tenir une position où elles devenaient un peu intouchables et elles pouvaient décider. Alors est-ce que, par exemple, je pense à une chose, j'avais envie de prendre... la musique du film La Banquière, où Romy Schneider interprétait avec brio ce rôle. Je ne l'ai pas trouvé, il était sorti de la discothèque malheureusement. Est-ce que des femmes comme ça qui tout à coup apparaissent dans une fonction qui était tout à fait inhabituelle pour l'époque où elles l'ont vécu, ce type de personnage-là apparaît dans le livre de Marie-Françoise Hans?
Oui, bien sûr, il apparaît. Et on voit des femmes, par exemple au Moyen-Âge, des femmes qui restent, par exemple, les chevaliers sont partis aux croisades, et il y a des femmes qui restent chefs dans leur comté ou enfin, sur leur domaine, et qui savent très bien se débrouiller et qui remplacent parfaitement leur mari. Mais souvent, elles ont accédé à cette position par leur mariage. Plus tard, on voit, il y a des femmes armateurs, il y a des femmes, des commerçantes,